Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de Nu Info. Au menu de cette édition consacrée à l'impact du Covid-19, le Conseil de sécurité tient une visioconférence sur le Mali. En République centrafricaine, Guira FM lance une chronique santé Stop Coronavirus. La Commission économique européenne de l'ONU prône la mobilité durable dans un monde post-Covid. Et en dossier, nous marquons la Journée mondiale de la santé avec le témoignage du docteur Rudy Cohen, chef de service médical d'urgence en région parisienne. Avec 56 cas de Covid-19 et 5 décès à ce jour, le Mali n'est pas épargné par la pandémie. C'est ce qu'a indiqué l'envoyé de l'ONU dans ce pays, Mahamat Saleh Anadif, par visioconférence devant le Conseil de sécurité mardi. Il a noté que la MINUSMA, la mission des Nations Unies dans le pays, poursuivait ses efforts pour ramener la paix tout en se protégeant du Covid-19. Jérôme Bernard nous en dit plus.
L'envoyé de l'ONU au Mali a souligné la coopération exemplaire entre les Nations Unies et le gouvernement malien dans la lutte contre le Covid-19. Depuis le 19 mars, les vols commerciaux vers le Mali ont été suspendus, les rassemblements sont interdits et un couvre-feu a été instauré entre 21h et 5h du matin. Dans ce contexte, la MINUSMA et l'équipe pays de l'ONU continuent de s'acquitter de leur mandat, mais par décision du secrétaire général, la rotation des contingents en uniforme a été suspendue jusqu'au 30 juin. S'agissant de la mise en œuvre de l'accord de paix, Mahamat Saleh Anadif a noté avec satisfaction que le redéploiement des premières unités reconstituées des forces de défense et de sécurité maliennes dans le nord du pays, notamment à Gao, Tombouctou, Kidal et Ménaka, est devenu une réalité avec plus de 1000 éléments déployés depuis février. L'envoyé de l'ONU s'est aussi félicité de la visite du Premier ministre dans les régions du nord, notamment à Kidal, Tessalit et Aguel-Hoc, qui démontre, selon lui, l'instauration d'un climat de confiance entre les parties signataires de l'accord de paix. Il s'est aussi félicité du déroulement, dans une atmosphère paisible, du premier tour des élections législatives, malgré l'enlèvement du chef de l'opposition, 3 jours avant le scrutin.
Stop Coronavirus, votre chronique santé pour mieux faire connaître cette pandémie et lutter contre sa propagation.
Avec 9 cas confirmés, la République centrafricaine est elle aussi frappée par l'arrivée du coronavirus. Il importe de sensibiliser la population et pour ce faire, la radio de la mission de paix de l'ONU dans le pays, Guira FM, a lancé une chronique santé Stop Coronavirus. Produite par François Gombaï, elle permet de transmettre des messages forts et des conseils d'experts pour lutter contre la pandémie, à l'instar de ceux du docteur Mathias Amadou, médecin-chef de l'hôpital de Haute-Coteau, qui explique comment rompre la transmission du Covid-19.
Pour rompre, c'est toutes les mesures qui sont édictées de prévention. D'abord, les mesures d'hygiène. Les gens doivent se laver la main régulièrement, avec du savon. Les gens, quand ils proviennent d'un endroit où un cas a été identifié, par exemple, s'ils viennent de Bangui, s'ils arrivent et qu'ils font l'autoconfinement, ils savent qu'ils tous, ils doivent s'isoler du reste de la communauté et se déclarer, informer les structures sanitaires la plus proche que voilà, je viens d'un endroit où le virus circule, soit de Bangui, soit d'un pays étranger, d'une ville étrangère où le cas a été déclaré. Et comme ça, en arrivant ici, voilà, je ressens tel type de symptômes pour que des mesures appropriées soient prises. Donc, je pense que ça, c'est vraiment indispensable. Moi, docteur Jean-Mathias Amadou Agounzoba, médecin-chef du district sanitaire de la Haute-Coteau, je m'engage à suivre les différentes mesures qui sont mises en place. D'abord, la distance sociale, respecter l'écart de 1 mètre dans les rencontres, limiter les réunions à moins de 15 personnes, toutes les réunions. En tant que médecin, je dois me laver régulièrement la main avec du savon. Après chaque déplacement ou chaque rencontre, je ne dois plus saluer les gens avec la main. Quand j'éternue, je tousse, je dois le faire dans mon coude. Je ne dois pas me retrouver dans des lieux de regroupement, de masse. Et je dois limiter mes mouvements. Je m'engage si je vais dans un endroit où je sais qu'il y a une circulation locale où des cas ont été identifiés, je dois me mettre en quarantaine pour protéger ma famille ainsi que toute la communauté. Je demande à toute la population de faire comme moi.
Comment sera l'après-coronavirus? La question revient souvent face au bouleversement de nos comportements que provoque la pandémie. Le secrétaire général de l'ONU a appelé à tirer des leçons et construire un monde meilleur. Pour la Commission économique européenne de l'ONU, cela passe par les transports durables. La Commission vient d'ailleurs de publier une étude qui met en exergue des solutions avérées. Jean Rodriguez, porte-parole de la CEE ONU.
On cite un exemple de l'ouest de l'Angleterre où l'organisation du transport a permis de réduire l'utilisation de la voiture de plus de 50% pour ramener les élèves à l'école et vers les domiciles. Nous citons également un exemple en Autriche où des entreprises ont mis en œuvre diverses formules de carpooling, de facilitation de l'utilisation des transports qui ont permis à une entreprise de 3400 employés de réduire l'utilisation de la voiture également de 50%. Donc il y a des solutions, très clairement, il faut qu'il y ait des offres alternatives. Le transport public, c'est c'est la solution évidemment la plus répandue. Pas partout, malheureusement. Nous citons un autre exemple qui est intéressant, qui est, alors là, dans un tout petit village ou pour des zones qui sont très éloignées, pas desservies aujourd'hui par les transports publics, des transports à la demande en minibus, par exemple, peuvent être mis en place pour faciliter les déplacements de ces personnes dans des zones qui sont mal desservies. Et l'exemple suédois a montré de manière tout à fait marquante que le transport au prix du kilomètre de ces transports alternatifs était inférieur au prix des transports publics traditionnels dans une zone un peu similaire à proximité.
En cette journée mondiale de la santé, nous rendons hommage et donnons la parole aux travailleurs de santé qui sont en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. C'est le cas du service mobile d'urgence de réanimation ou SMUR en France, qui porte secours aux patients 24 heures sur 24. Docteur Rudy Cohen est chef du SMUR au centre hospitalier d'Argenteuil en banlieue parisienne. Il est au micro de Florence Westergaard.
Argenteuil, c'est une petite équipe. Il y a deux unités qui sont opérationnelles H24 et chaque unité compte un médecin, une infirmière, un ambulancier. Voilà, on est 14 médecins, 10 infirmiers et une dizaine d'ambulanciers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les crises sanitaires comme celle-ci, ce qu'on appelle les situations sanitaires exceptionnelles, ça fait entièrement partie de nos missions. Ça avait été le cas en 2014 au moment de la crise Ebola. Il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, les attentats du Bataclan et de Paris en 2015. Ça aussi, ça faisait partie entièrement de nos missions. Chaque année, on a les patients qui reviennent du Hajj, qui ont le MERS-CoV, qui est aussi un coronavirus. Donc ça fait partie entièrement de nos missions. C'est un peu une des composantes du bouclier sanitaire de la France. Donc on a vu un peu venir les choses. On s'est dit qu'il fallait quand même mettre en place, il fallait surtout s'informer, il fallait surtout diffuser l'information, essayer d'être transparent au maximum. Et puis bien définir quelles étaient nos missions dans ce cadre-là. Voilà, quelle était la gravité des patients, quel type de patients on allait rencontrer. Donc c'était surtout dans la préparation de l'événement, quoi.
Et justement, avec cette crise, chaque jour, vous avez combien de patients avec le virus? Combien vous en traitez?
Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, donc on est deux équipes. Et là, depuis le début du confinement, on a créé une troisième équipe qui est 24 heures sur 24. Cette troisième équipe s'est mise à travailler au même rythme que les deux premières. Donc d'habitude, il y a une espèce de petit train-train, il y a environ une dizaine d'interventions par jour. Donc là, on est passé à plus d'une vingtaine, une trentaine. On a senti une augmentation. Mais on a pu faire face à cette augmentation justement en créant une équipe supplémentaire. Mais ce qui se passe un petit peu partout, c'est que les patients dits conventionnels, c'est-à-dire toutes nos missions habituelles, les infarctus, les accidents de la route, tout ça a disparu. Mais c'est que finalement, l'activité a un peu augmenté, mais elle s'est surtout substituée par des patients atteints de coronavirus. On a vu, nous, à peu près sur nos trois équipes, une centaine de patients, ce qui n'est pas beaucoup, hein, parce que, comme je dis, on est vraiment missionné sur des patients vraiment en situation de détresse. L'afflux aux urgences, eux, c'est 200 par jour qui repassaient. Mais nous, on est passé de 10% au 15 mars à plus de 80% aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'on ne voit plus que des patients atteints de coronavirus, ou suspects, en tout cas.
Et comment on se prépare justement avec ces patients? Comment vous approchez les gens?
La préparation, elle est beaucoup dans l'information. Il fallait vraiment faire comprendre aux différents personnels quels étaient, par exemple, les circuits. Est-ce que tel patient, il va aller à tel endroit? Est-ce que ce service, il accueille encore des patients conventionnels ou est-ce qu'il accueille des patients Covid? Voilà, donc il a fallu expliquer un peu tout ça. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni nos deux services, qui sont le service des urgences et le SMUR. Et tous les matins à 8h30, il y a le responsable des urgences qui fait un point. Et tous les matins, on a une présence. Et comme ça, on a tous les mêmes informations. On connaît les circuits, on évite la cacophonie. Et puis, il faut identifier en fonction de quelle situation, quelle protection adopter, quelle attitude adopter et quelle filière prendre. Donc, le défi d'une bonne préparation, c'est ça. Par exemple, pour être un peu caricatural, on a deux situations. On peut nous dire, voilà, au téléphone, ce monsieur avait l'air d'être très mal. Allez voir. Donc, on va voir. Et puis, on s'aperçoit que finalement, il est gêné par sa toux, il a de la fièvre, mais il ne présente pas de signe de gravité. Donc, ces patients-là, si nous, on leur met un masque chirurgical sur le nez et qu'on applique des mesures barrières simples, il n'y a pas besoin d'être complètement protégé. Voilà, c'est pas vraiment nécessaire. Il faut respecter quand même des mesures d'hygiène simples. Et à contrario, des malades qui vont nécessiter une intubation ou une ventilation invasive ou des gestes, même un masque à oxygène à très fort débit, ça aérosolise en fait le virus. Et donc là, il nous faut une protection type FFP2, masque, charlotte, lunettes, gants, surblouse et tout ce qui va avec.
Voilà, fin de ce journal de Nu Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.